Extrinsèque au commentaire d'Aristote. Peut-on dire que la matière première est créée et inengendrée? On peut dire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'elle est inengendrée. On peut dire qu'elle est concrée et non pas créée. C'est l'expression de saint Thomas, et il a raison, puisque c'est saint Thomas qui le dit. C'est-à-dire que la matière n'est pas créée comme quelque chose de créé. La matière première est le fruit d'une analyse. Seule l'intelligence saisit la matière première. La matière première n'existe pas comme matière première séparée de la forme. Elle n'existe que toujours comme ce qui est lié à telle ou telle forme. Et c'est pour ça que saint Thomas dit qu'elle est concrète. Je ne sais pas comment, ça le commodo, personne ne le sait, les savants inventent tout ce qu'ils veulent, très très bien, et il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas ça. On le verra dans le ciel. Ça fera partie de notre vision béatifique et de votre bonheur. Et ça m'a dit, ah mais oui, on a cherché dans le cours. Qu'est-ce que c'est la matière primeur, la matière première? Maintenant, je vois dans la vision béatifique que Dieu, en effet, a créé un monde physique, qu'il a créé cette matière première. Moi, je m'étais imaginé quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est si simple. Dans la vision béatifique, ce sera d'une simplicité, cette vision de la matière première. Alors que vous n'avez qu'une connaissance analogique de la matière première, hein, comme de tout principe. Vous n'avez pas de connaissance univoque d'un principe. La connaissance univoque est quiditative et vous ne saisissez jamais un principe quiditativement. Vous le saisissez toujours comme un au-delà de la forme. Vous arrivez petit à petit, hein, à faire que votre intelligence soit bien huilée et que vous arriviez à découvrir ça immédiatement. Et que vous ne faites pas du méta-univoque. Le méta-univoque, c'est effrayant. C'est l'université au carré. Oui, c'est la scolastique décadente. Et instinctivement, on tombe dans la scolastique décadente, chacun d'entre nous, vous savez. Faut pas croire qu'on est privilégié d'une façon étonnante de ne pas retomber dans la scolastique décadente. Alors nous allons maintenant regarder le livre Bêta, c'est-à-dire le livre 2, puisqu'il y a alpha, bêta. Apprenez au moins l'alphabet grec pour comprendre ce que c'est que zeta, iota. Alors nous allons essayer d'entrer dans ce livre 2. Vous voyez que le livre premier, nous avons essayé de le comprendre. Le livre premier, c'est un livre critique. Je peux le résumer en deux mots. C'est un livre critique. Comme date, c'est très très difficile. Hein. Ça, c'est intéressant de regarder comment, de fait, Jaeger, et à partir de Jaeger, mention... Et à partir de là, tous les autres recherchent et étudient Aristote en premier lieu pour comprendre comment Aristote a composé ses livres. Je crois que c'est la dernière chose qu'on doit faire, et non pas la première. Parce que comment Aristote a composé ses livres, il ne nous l'a pas dit. Sauf de temps en temps quelques petits indices dans les météorologiques, puisque c'est le lieu qu'on reprend tout le temps. Et à partir de là, on essaie de comprendre comment Aristote a composé ses livres. Vous comprenez que c'est très facile d'essayer de voir dans Aristote différentes périodes. La première période, Aristote est disciple de Platon. C'est sûr. 20 ans avec Platon. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas subi l'influence de Platon? Il serait un imbécile. Quand on est en face d'un Platon, vous savez, on est séduit. Puisque même maintenant, on est encore séduit par Platon. Et celui qui n'a pas été séduit par Platon, c'est un pauvre type. Parce que Platon est très séduisant, terriblement séduisant. Alors on est très séduit par Platon au début de sa vie et à la fin de sa vie. Ce que disait toujours le père de Haut. Et je comprends très bien. Le père de Haut disait, c'est très difficile de rester aristotélicien quand on vieillit. Et je dirais, c'est très difficile d'être aristotélicien quand on est jeune. Parce que c'est rude. Le réel, c'est rude. Alors, au début, on est tous un peu platoniciens. Alors, il y a la phase platonicienne, puis il y a la phase aristotélicienne qui s'arrache de Platon, avec un peu de nostalgie. Il avait tellement espéré être successeur de Platon. Et Platon ne l'a pas pris, parce qu'il a subi des influences, le vieux Platon. Il a subi des influences et qu'Aristote, on avait peur de lui, parce qu'il était intelligent. On a toujours peur des êtres intelligents. Et les pauvres êtres intelligents sont toujours obligés d'être seuls. Parce qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas. Alors ils disent certaines choses immédiatement et les autres ne voient pas. Ils disent, oh, est-ce que vous êtes méchant? Ben oui, ça dépend. Platon, je l'aime, ainsi que la vérité, mais la vérité plus que Platon. Pour beaucoup, Platon, c'est la vérité. Donc, pas de problème. J'aime la vérité, j'aime Platon. Il n'y a pas eu de problème. Merveilleux de pouvoir dire ça jusqu'à la fin de sa vie. J'aime la vérité, j'aime Platon. Aristote, à un moment donné, a compris qu'il fallait quitter Platon. Je crois qu'il l'a compris très vite. Parce que si on avait un texte dans les fragments d'Aristote, et vous savez, c'est très difficile, hein, les questions des fragments, c'est très difficile. Parce que les fragments, c'est tiré du contexte. Et puis les fragments, qu'est-ce qui les a dit ? Il n'y a pas un seul fragment où on a la position qu'Aristote accepte les formes en soi de Platon. Si on avait un fragment, ce serait extraordinaire. Donc il semble que jamais Aristote n'ait accepté les formes en soi. Jamais Aristote n'a accepté la position platonicienne à l'état pur de l'âme liée au corps d'une façon accidentelle. Ça se tient. Alors, première période, Aristote, platonicien, c'est-à-dire acceptant d'être un disciple, il écrit dans les mœurs de l'école de bonnes dissertations. Il a dû faire quelques petits dialogues. On n'avait pas poussé Aristote en disant « Faites votre dissertation, faites votre dissertation !» On n'en a pas encore. Non, non, Aristote était plus intelligent, il en a fait tout de suite. Alors il a fait des dissertations, il a fait des dialogues. Il reste des fragments, pas grand-chose, parce que c'était un disciple, alors on ne va pas garder vos dissertations. Même si vous, enfin, on devrait toutes les garder, parce que si vous devenez un homme illustre, c'est tellement intéressant. Sous la conduite du frère Samuel, le frère a fait telle dissertation. Il a fait une dissertation tellement intelligente que le frère Samuel ne l'a pas comprise. Et maintenant que c'est un génie, on peut dire que cette dissertation est merveilleuse et étonnante. Vous voyez, mais il faut être génial. Pour que vos dissertations d'étudiants soient géniales, il faut que vous soyez génial. Autrement, ce ne sera pas génial, dissertation d'étudiants. Les dissertations d'étudiants, on les garde pas, vous comprenez. Prenez ça. À l'école Saint-Jean, gardez toutes les dissertations de tous les étudiants. On les garde 10 ans. Et au bout de 10 ans, on les brûle. Mais au bout de 10 ans, vous n'êtes pas encore un génie. Bon. Aristote, disciple de Platon à l'Académie. Aristote qui quitte l'Académie et qui commence alors à montrer ce que c'est qu'une philosophie première et la physique. Vous comprenez que c'est très original, Aristote, la physique. Mettez en parallèle la physique et le timée. De temps en temps, faites les deux. Parce que vous verrez tout de suite le climat est tout à fait différent. Le timée, c'est une théologie du monde physique. Tandis que là, on a une philosophie de la nature. C'est-à-dire une philosophie de la matière. C'est tout à fait autre chose. Je crois que très vite Aristote a composé des livres de la philosophie de la nature. Et cette période première va être complétée ensuite progressivement pour arriver à un Aristote qui est pleinement maître de sa pensée. Alors pour certains, Aristote, au terme de sa pensée, devient positiviste. Ce que je ne crois absolument pas. Je crois qu'Aristote a été de plus en plus contemplatif. Mais de plus en plus, il était lui-même. C'est-à-dire qu'il a compris que il fallait découvrir ce que c'était profondément cette recherche philosophique qui est la recherche des causes de tout ce qui est. Et donc, du monde physique, le monde physique, c'est notre corps, le monde physique, c'est l'eau, le monde physique, c'est le feu, le monde physique, c'est la terre, c'est les réalités que vous palpez. Il a cherché ça. Je crois que très vite. Alors, il y a, évidemment, selon les historiens, des analyses successives. Comme Aristote faisait des cours, il ne s'occupait pas, je crois, de faire des livres. C'est des cours. Alors des cours, on en ajoute successivement. Et je crois que le livre premier est un livre qui a été écrit quand Aristote était déjà très maître de sa pensée. Un livre critique qui montre qu'il peut y avoir une intelligibilité de ce qui devient. Une intelligibilité de ce qui est mu. Alors que pour Platon, à la suite d'Héraclite, il n'y a pas d'intelligibilité de ce qui est mu. Et quelle est l'intelligibilité de ce qui est mu pour Aristote ? Ce sont les contraires. Les contraires ont cette possibilité de nous donner une certaine intelligibilité de ce qui est mu. Il y a les contraires et il y a le sujet. Donc vous avez trois. Alors, le livre 2, c'est le début de la recherche constructive de la philosophie de la nature. C'est la découverte inductive de la nature, de la phusis. Faut bien comprendre ce que c'est que la phusis. Traduira par nature, il faut comprendre ce que c'est. Or, la phusis, comme telle, c'est arché, c'est un principe, c'est une cause. Et donc, c'est en raison de la découverte de la phusis que la philosophie de la nature existe. Vous voyez, la phusis, ce n'est pas ce qui est mu. Ce qui est mu implique une phusis. L'eau. Je prends l'eau. Hein. L'eau, c'est mu. Le flux et le reflux. Pour ceux qui connaissent la mer. Hein. L'eau. Bon, implique une phusis. Parce que l'eau est mu autrement que le feu. Que l'air. Je prends exprès ces éléments. Les choses tout à fait premières. Et puis que les vivants. Et donc, on découvre pratiquement une détermination. Et c'est cette détermination qui ordonne le mouvement de l'intérieur. Et la phusis, c'est un principe immanent. Alors, on va essayer de voir comment Aristote nous donne cela. Des êtres, en effet, les uns deviennent et sont par nature. Les autres deviennent et sont en vertu d'autres causes. Monsieur Teste de Valérie. Hein, c'est dit en deux mots. Vous savez, vous rencontrez au bord de la mer un petit caillou merveilleusement lisse. Est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est fait par une œuvre d'art ? Vous rencontrez dans le désert un merveilleux silex qui paraît taillé. Est-ce qu'il est taillé vraiment ou est-ce qu'il est naturel ? Mais vous vous posez la question, c'est la question d'Aristote. Constatation des êtres, c'est des tones, ontones, des étangs, comme on traduirait aujourd'hui. Il a raison de dire des êtres. Et si je suis heideggerien, je dirais des étangs. Des étangs. parmi les étangs, les uns par nature, les autres en vertu d'autre cause, une œuvre d'art, le silex taillé. Oui, détermination, ça c'est très intéressant, c'est que, de fait, qu'est-ce qui est connu pour nous, d'une manière plus immédiate, c'est l'œuvre artistique. L'œuvre, la réalité naturelle, va se distinguer de l'œuvre artistique. Tout de suite. Vous précisez la réalité naturelle en fonction de la réalité artistique. La réalité artistique, elle provient toujours d'une cause extrinsèque. L'œuvre naturelle provient d'une cause immanente. Alors, c'est cette distinction, cette division première qui est capitale, qui est fondamentale à travers toute la philosophie de la nature. Vous voyez bien que la philosophie de la nature présuppose la philosophie de l'art. Avant la philosophie de la nature, il y a la philosophie de l'art. Aristote ne le dit pas, mais c'est dit, puisqu'il y a la division. Alors, est-ce que cette division est a priori, ou est-ce que cette division est réelle? Si elle est a priori, philosophiquement, elle ne tient pas. Si elle est réelle, elle tient. Mais pour qu'elle soit réelle, il faut savoir ce que c'est que l'œuvre artistique. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre artistique? Une chaise. Vous savez, c'est quand on dit aux enfants, par exemple, hein, les macaronis, ça pousse naturellement en Italie. Et les macaronis, ça pousse. Les macaronis sont une œuvre artificielle. Ça se vend dans une boutique et non pas chez quelqu'un qui est un fruitier. Non, c'est au milieu des cerises, vous voyez des macaronis. Vous dites, mais quand même, non. Tandis que les cerises, c'est un produit naturel. Le riz, c'est la différence entre les macaronis et le riz. Oui. Réalité, œuvre nette, œuvre artistique, œuvre naturelle. Donc, pour pouvoir faire cette distinction, vous voyez, elle est déjà très élaborée, cette distinction. Il faut avoir fait toute une philosophie de l'art pour connaître l'œuvre artistique. Et c'est à partir de l'œuvre artistique que je connais quelque chose de plus radical que l'œuvre artistique, les réalités naturelles. Il y a des réalités naturelles que vous voyez tout de suite quand vous êtes dans un pays de montagne, quand vous êtes auprès de la mer. Est-ce que c'est une réalité naturelle ou est-ce que c'est une réalité artistique? Aujourd'hui, avec les autoroutes, hein, c'est une réalité artistique, les autoroutes. Ça n'a pas poussé tout seul. Surtout quand il y a des quantités d'œuvres d'art entre deux qui réunissent deux cols entre deux petites montagnes, les unes à côté des autres. Réalité artistique. De plus en plus, notre monde est un monde artistique. Quand vous êtes en ville, au bout d'un certain temps, vous ne voyez plus du tout la nature. Sauf le soir, quand vous voyez vaguement une étoile. Parce que vous n'avez jamais vu de vache durant votre vie. Et vous n'avez eu que du lait pasteurisé. Donc, vous ne savez plus du tout comment ça pousse. Alors, les unes par nature, les autres en vertu d'autres causes. Vous voyez comme c'est intéressant, c'est tout de suite en vertu d'autres causes. Donc c'est déjà très élaboré. Ça présuppose toute la philosophie de la nature. C'est intéressant, vous voyez, pour justifier, parce que la scolastique, qu'est-ce qu'elle a fait? La scolastique, reprenant tout à partir de la théologie de saint Thomas, la scolastique commence par la philosophie de la nature. Et dans certains instituts d'itomistes, vous dites la philosophie de la nature est première. Mais non, elle n'est pas première, je regrette. Qu'est-ce qui est premier? C'est la philosophie de l'art. Et c'est l'éthique. Et c'est la philosophie de la communauté. Voilà ce qui est premier. Et à partir de là, vous essayez de comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter à ces connaissances pratiques, qu'il faut aller plus loin. et qu'il faut la naissance de la connaissance spéculative. C'est vrai que dans la philosophie spéculative, la philosophie de la nature est première, mais la connaissance spéculative n'est pas première. Qu'est-ce qui est premier ? C'est la connaissance d'une philosophie pratique. C'est très important de comprendre ça, vous voyez ? Parce que de fait, des générations, et ça continue de durer, disent que la philosophie de la nature est première. Vous voyez tous les problèmes que ça pose aujourd'hui avec la physique. Alors, il faut donc commencer par critiquer, montrer que la philosophie de la nature existe, mais la philosophie de la nature, vous pouvez montrer qu'elle existe que quand elle est faite. Alors vous êtes devant un panier de crabes. Parce que la physique contemporaine, c'est bien plus intéressant que la physique d'Aristote. C'est pas commode de distinguer la physique moderne et la physique d'Aristote. Alors si vous, la philosophie première, si la philosophie de la nature est première, vous êtes tout de suite en face d'un problème insoluble. Tandis qu'au contraire, si vous comprenez que la philosophie de l'art, de l'activité artistique est première, vous comprenez tout de suite que l'homme travailleur travaille une matière. Alors là, pas de problème de la physique. Il travaille une matière. Et donc, après avoir étudié l'œuvre d'art, on étudie ce qui est antérieur à l'œuvre d'art, la matière. Et nous voyons que cette matière implique des déterminations, qu'elle est une nature. Vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est que le regard philosophique n'abstrait jamais de l'homme, alors que le regard de la science moderne, parce qu'il est en dépendance des mathématiques, abstrait tout de suite de l'homme. Et je crois ça pour nous très important, pour comprendre tout de suite la différence entre la physique d'Aristote et la physique moderne. C'est le même mot. Ça, c'est pas de la faute d'Aristote. Faut pas accabler Aristote hein, d'avoir fait des confusions. C'est les physiciens qui, à la place, qui auraient dû mettre un nouveau mot pour tout de suite se distinguer de la physique d'Aristote. On l'appelait physique. Alors que la physique existe avant. Oui, c'est comme si le Benjamin, vous lui donniez le même nom que le fils aîné. C'est embêtant pour le Benjamin. Heureusement que le Benjamin a un nom particulier, il s'appelle Benjamin. Alors ça va. Alors on sait qu'il est Benjamin. C'est pas le nom du fils aîné. C'est très important la question des noms. En mettant physique moderne en l'appelant physique alors que la physique d'Aristote existe, eh bien vous commencez à créer une confusion. Et vous oubliez que la physique d'Aristote est philosophique et que la physique moderne n'est pas philosophique. Alors, progressivement, il faut regarder quels sont les caractères d'une connaissance philosophique et quels sont les caractères d'une science moderne. Il faut toujours avoir ça à côté et petit à petit se faire à soi-même cette propre conviction que la connaissance scientifique moderne s'est élaborée sur un fond philosophique et sur un fond mathématique. Le fond mathématique a cet immense avantage, c'est qu'il est tout à fait premier. Notre premier fond, j'allais dire spéculatif, est mathématique. De là naît la philosophie, de là naît la science moderne. Alors, les uns par nature, les autres en vertu d'autres causes. Par nature, les animaux, leurs parties, les plantes et ceux des corps qui sont simples, comme la terre, le feu, l'air et l'eau. Ces êtres ou ces réalités, en effet, et ceux de cette sorte, nous disons être par nature. Donc on les appelle naturels. C'est très important l'expression d'Aristote, le phouzei. Phouzei. Ta, toyota, donc ces réalités, moi je mettrais plutôt ces réalités que ces êtres, ces réalités, ces Toyota, c'est ce qu'on montre. Voyez les êtres. Hein. Le mot être est tellement complexe qu'il vaut mieux mettre ces réalités. Les Toyota. Donc ces réalités que je montre. Famen fousei. Alors c'est l'expression d'Aristote fousei qu'il faut essayer de comprendre progressivement. C'est une expression extrêmement riche. Ce qui est par nature. Alors c'est une expression analogique. Hein. Tout de suite, vous allez voir, le fousei n'est pas la même chose en éthique qu'en philosophie de la nature. Et c'est là où la philologie est obligée de se mettre un tout petit peu à l'écart. Parce que pour le philologue, fousei en philosophie première, fousei en éthique, c'est la même chose. Il ne voit pas les plans analogiques. La philologie n'est pas analogique, la science philologique. Je dis ça, c'est parce que on traite Aristote aujourd'hui à la sauce philologique. Et quand on traite Aristote à la sauce philologique, on ne comprend rien de la pensée d'Aristote. Il suffit de comprendre Aristote par lui-même. Or, Aristote distingue l'éthique de la philosophie de la nature, l'éthique de la philosophie du vivant. Donc je n'ai pas le droit, moi, de confondre, même si le langage est semblable. Mais il est semblable analogiquement. Donc, voyez tout de suite le fousei, hein, c'est intéressant ici. Et voyez tous les exemples qu'Aristote donne. Hein. C'est tous les exemples. Donc, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et puis les plantes. Les plantes. Le riz, pas les macaronis, il les mettra dans le second sac. Ça, c'est fait par nature. Les automobiles, ça pousse pas. Oui, fousei, c'est tout ce qui pousse. Le mot fousei, ça vient de là. Ce qui est par nature, c'est tout ce qui pousse, c'est tout ce qui a une croissance. Alors, les macaronis n'ont pas de croissance. Les automobiles n'ont pas de croissance, ils ont plutôt une dégénérescence. Qu'une croissance. Parce que ça s'abîme. Or, toutes les réalités susdites, donc toutes les réalités susdites, apparaissent clairement pantade ta retenta finetai, donc apparaissent diaferonta prosto me fusei suneste. Tunestota. Donc toutes les réalités susdites apparaissent clairement, relativement à ceux qui ne sont pas constitués par nature. Et par rapport à ceux qui ne sont pas par nature, qui ne sont pas réalisés par nature. Sunestonta. Alors c'est très intéressant de voir, hein, ce clairement. Apparaissent clairement, relativement à ceux qui ne sont pas constitués par nature, comme différents. Donc apparaissent clairement comme en différent. Donc apparaissent clairement comme autre chose. Vous voyez, Aristote veut montrer que la distinction entre les œuvres artistiques et les œuvres qui sont fousei, la distinction est claire. Pour celui qui interroge, c'est une distinction qui apparaît nettement, qui n'est pas difficile, qui n'implique pas d'induction. Vous l'avez directement. Vous pouvez directement reconnaître une œuvre naturelle d'une œuvre artificielle. Si vous avez une certaine expérience, si vous n'avez pas d'expérience, vous vous trompez. Vous voyez, le gosse, il se trompe. Quand vous dites au gosse que les macaronis, ça pousse, il le croit. Pourquoi pas? Alors que vous montrez le riz, ça, le riz, ça pousse. Ça ne sort pas de l'usine. Ben là, il y a un problème de frontière, de situation limite dans cette distinction. En effet, toutes les réalités par nature apparaissent clairement comme ayant en eux-mêmes un principe de mouvement et de repos. Ah, voilà l'induction. Et Aristote dit que c'est tout à fait clair. Apparaissent clairement comme ayant en eux-mêmes un principe de mouvement et de repos, les uns quant au lieu, d'autres quant à la croissance et à la décroissance, d'autres encore quant à l'altération. Ça, c'est intéressant. Voilà ce qui caractérise les êtres naturels. Ils ont un lieu. Une œuvre d'art n'a pas de lieu. Une chaise n'a pas de lieu. On peut la transposer autre part. Quand quelqu'un dit « Ah, non, bougez pas cette chaise, c'est là son lieu. » C'est faux, pas une réalité naturelle. Tandis qu'une plante, vous pouvez dire que c'est son lieu d'être dans la terre. Si vous la mettez ici, sans la terre, et vous dites « Elle doit rester là. » Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mourir. Tandis que la chaise, elle ne meurt pas. Et c'est très intéressant de voir que les réalités artificielles n'ont pas de lieu. C'est pour ça qu'on fait des musées. À cause de ça. Je sais bien qu'on fait des zoos aussi pour les animaux, qui sont des musées d'animaux. Mais c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons. Les réalités naturelles ont un lieu. Elles ont une croissance, elles ont une décroissance, elles ont l'altération. Une œuvre d'art n'a pas d'altération. En tant qu'œuvre d'art, si elle s'altère, c'est à cause de la matière de l'œuvre d'art, donc de la nature. C'est vrai, une statue en bois peut s'abîmer. Il peut y avoir des vers qui l'abîment. Il peut y avoir l'érosion qui l'abîme. Mais ce n'est pas en tant qu'œuvre d'art, c'est en tant que matière. Tandis qu'un lit, alors voilà tout de suite, l'œuvre d'art, un lit. Un lit, un vêtement, et si existe quelque autre genre de cette sorte, en tant qu'ils se sont trouvés recevoir l'attribution nominative qui leur est particulière et selon tout ce qui en eux est en dépendance d'un art, n'ont aucune tendance naturelle innée au changement. L'œuvre d'art est fixe, pas de mouvement. Aucune tendance naturelle innée au changement. Oui, c'est le mouvement naturel qui distingue l'œuvre d'art de l'œuvre naturelle. Vous voyez qu'Aristote ici va préciser progressivement ce que c'est que l'induction. Mais vous voyez comment il détermine. C'est tout à fait autrement que dans le livre Zeta pour la substance. Et c'est très intéressant de mettre le parallèle entre les deux. Parce que ça montre que la voie inductive, chaque fois, est différente. Il n'y a pas de méthode inductive. Non, on le voudrait bien. Chaque fois que vous devez induire, vous devez découvrir votre propre sentier. Et alors ici, c'est admirable la manière dont Aristote le fait. Vous voyez qu'il le fait en se servant de la dualité. Vous ne pouvez induire la nature qu'en louchant toujours sur l'œuvre d'art. Et c'est l'œuvre d'art qui met en pleine lumière l'œuvre naturelle, la réalité naturelle. Et alors vous voyez ce qu'il prend comme moyen, c'est très intéressant, le lieu, la croissance et la décroissance, l'altération. Et il montre, en allant un peu plus loin, que le lit et un vêtement, s'il existe quelque autre genre de cette sorte, donc mettez les macaronis, vous pouvez mettre ça aujourd'hui, pour les Italiens comprendront mieux, en tant qu'ils se sont trouvés recevoir l'attribution nominative particulière et selon tout ce qui en eux est en dépendance d'un art, les macaronis, vous voyez que ça sort de telle maison. Il y a des marques. Il y a une marque macaroni. Ça prouve que c'est telle série, ça sort de tel endroit. Et ça, quand on met la marque, on indique que c'est artificiel. L'auto a une marque artificielle. Tandis que vous ne mettez pas ça sur les plantes. Curieux. Et la manière dont Aristote souligne l'approche successive de la découverte de la nature n'ont aucune tendance naturelle innée au changement. L'œuvre d'art comme telle est fixée. Anti-destin. Malraux, c'est ça que Malraux veut dire. Anti-destin. L'œuvre d'art comme œuvre d'art n'a pas de tendance naturelle innée au mouvement. Mais en tant qu'accidentellement il se trouve être en pierre ou en terre, ou en mixte de ces éléments, ils ont telle tendance. Et ils les ont dans la mesure où ces éléments existent en eux. C'est par l'aspect matériel que les œuvres d'art ont une tendance à la décrépitude. L'œuvre d'art comme telle, parce que ça relève de l'eidos, l'eidos comme tel est au-delà du mouvement, au-delà de la tendance naturelle au mouvement. Donc l'eidos est au-delà. Et comme l'eidos est au-delà, si l'œuvre d'art périt, c'est en fonction de la matière. C'est pas comme œuvre d'art. Le « en tant que hein, », en tant qu'ils se sont trouvés recevoir l'attribution nominative, particulière et selon tout ce qui est en dépendance d'un art, n'ont aucune tendance naturelle innée. Ça, c'est très fort. Mais vous voyez bien que toujours l'œuvre d'art est là présente. Pour mieux comprendre ce que c'est que la tendance naturelle innée au mouvement. Mais en tant qu'accidentellement. Alors, le point de vue accidentel, second, il se trouve être en pierre ou en terre, ou en mixte, ou en un mixte de ces éléments. Ils ont de telles tendances, et ils les ont dans la mesure où ces éléments existent en eux. La nature étant ainsi, un certain principe est la cause du fait de se mouvoir et d'être en repos. Voyez l'induction, hein ? Comme elle est très descriptive. Mais il y a une induction réelle, puisqu'il aboutit au terme, la nature étant ainsi. Un certain principe est cause du se mouvoir et d'être en repos, en ce en quoi elle réside en premier, par soi et non selon l'accident. Il faut prendre tout ça. Hein. Alors, on l'analysera la fois prochaine pour bien comprendre. Quel est le nerf de cette induction ? Vous voyez que le nerf de cette induction, c'est le mouvement inné. C'est la tendance vers un mouvement. Alors, chez les vivants, c'est très net, c'est la croissance. Chez les non-vivants, c'est plus difficile de voir ce que c'est que le mouvement inné. Hein. Quel mouvement inné de l'eau ? Vous ne pouvez pas dire que c'est le flux et le reflux. Ça, c'est l'action de la lune. Hein. Ce n'est pas le mouvement naturel de l'eau. Quand vous mettez un vase d'eau, vous ne pouvez pas le flux et le reflux du vase d'eau. Non. Ça, c'est la mer qui a ça. Quel mouvement naturel de l'eau ? Quel mouvement naturel du feu ? Ah, ça, c'est plus facile à voir parce que c'est plus. Ça vous échappe quand vous mettez le feu dans la boîte. Hein, ça désire partir, le feu. C'est plus difficile. Mouvement naturel de la terre. Donc, c'est le mouvement inné qui caractérise l'œuvre naturelle. Et à partir de là, vous induisez un principe inné. Tandis que dans l'œuvre naturelle, où il n'y a pas cela, vous induisez immédiatement une cause extrinsèque. Oui, je crois que ce passage est très important pour comprendre ce qu'est l'induction de la nature.